Bonjour, Rosine Cordin.
Bonjour Monsieur Lestanguet.
Alors,
Bonjour
vous
les
êtes
Français de presse ou point presse.
les Français point presse et bonjour aux Français et aux Franco-Tunisiens qui sont nombreux à nous lire. Alors, vous êtes fondatrice de la section UFE à Sousse en Tunisie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos activités?
Alors, l'Union des Français de l'étranger, qui est d'abord une association qui représente à peu près 170 représentations dans le monde et qui est née en 1927 par un journaliste, Monsieur Gabriel Vernelet, voyant un peu les mauvaises conditions des Français du dehors, comme on s'appelait avant les Français du dehors. Et donc ensuite, voyant toutes nos actions pour défendre les intérêts des Français de l'étranger, nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 1936 par Monsieur Léon Blum. Donc, j'ai commencé à être adhérente à l'UFE à partir de 2013 et j'étais responsable régionale de l'UFE Tunisie. Et puis ensuite, devant un groupe grandissant sur l'UFE Sahel, eh bien, nous sommes devenus indépendants donc, par les statuts, une association tunisienne hein, qui est gérée par le décret 2011 en Tunisie. Donc voilà, depuis 2017 et avec un numéro de jorte et puis une identification fiscale, pardon, puisqu'on paye des impôts tous les mois, voilà. Et nous regroupons tous les francophones, donc bien entendu, ben, aussi bien la Belgique, le Canada, les Italiens francophones, les Tunisiens francophones, c'est pas ce qui manque, bien entendu, c'est
Bien
une
sûr.
majorité, grande partie. Voilà, donc c'est vrai que pour nous, ce qui est très important, c'est de défendre les intérêts des Français de l'étranger, bien sûr, par rapport aux lois, par rapport aux cartes de séjour, par rapport à l'administration, les conseils pour payer leur retraite, puisque les Français doivent payer les retraites en Tunisie. Et connaître un petit peu toutes ces lois binationales entre la Tunisie, et ça me passionne, la Tunisie et la France. Défendre aussi la UFE, les parents d'élèves par rapport à la UFE s'il y a quelque chose qui se passe, puisque je viens d'écrire à Monsieur Le Drian un courrier à ce sujet sur la facture du troisième trimestre face au Covid-19.
J'aurais une question là-dessus, mais
Voilà, donc et pour cette passion de la francophonie qui est sa valeur numéro 4 hein, à l'UFE, en dehors de sa valeur numéro 1 qui est l'apolitisme total, ce dont nous sommes apolitiques totalement, même si j'ai des idées personnelles, bien entendu, heureusement pour moi. Et donc nous sommes labellisés depuis le mois de mars 2020, le temps passe vite parce que moi avec ce. Depuis début mars 2020, auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et l'UFE Sousse, puisque nous sommes trois, attention, très indépendantes et complètement différentes, trois UFE indépendantes et complètement différentes en Tunisie, l'UFE Sousse fait partie, et ça nous en sommes très fiers, nous fait partie de l'organisation. Du comité d'organisation du 18e sommet de la francophonie avec toutes les ambassades, donc aussi bien la Belgique, avec qui je viens de parler d'ailleurs hier, puisque nous sommes très proches de l'ambassade de la Belgique avec la bande dessinée. Et donc nous faisons partie de cela et nous faisons partie aussi, UFE Sousse, du comité de communication. Du comité de communication pour préparer le 18e sommet de la francophonie qui recevra près de 70 chefs d'État. C'est repoussé, c'était en décembre, c'est repoussé en janvier.
Ça aura lieu.
Peut-être,
Et dites-nous, ça aura lieu où? Ça... Vous allez y
peut-être,
aller, vous?
peut-être, peut-être Djerba.
D'accord.
Donc, 70 chefs d'État francophones. Donc, ben voilà. Je pense que tout le monde recevra son invitation. Ça, c'est pas de notre fait. Ça sera près de la part de la présidence de la Tunisie. Mais en tout cas, nous faisons partie intégrante de ce comité d'organisation du 18e sommet. Et l'UFE Sousse est vraiment très fière et très heureuse. Voilà, de cela.
J'imagine, j'imagine. Félicitations pour ça. Alors,
Merci.
vous aviez évoqué aussi l'AEFE et les demandes des parents et le courrier que vous avez adressé au ministre Jean-Yves Le Drian. Alors, la COVID-19, ça a été compliqué partout dans le monde, évidemment. C'est des revendications de parents d'élèves qui sont présentes partout dans le monde et également en ce qui concerne le non-paiement du troisième trimestre ou une réduction ou alors une réduction sur l'année prochaine. Enfin, il y a différents mécanismes envisagés, envisageables. Comment ça s'est passé? Le réseau français en Tunisie est extrêmement important, pas que pour les Français de Tunisie d'ailleurs, aussi notamment pour les Tunisiens sur place. Il y a eu beaucoup de difficultés économiques, évidemment, comme dans le monde entier. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Il y a eu quand même des moyens qui ont été alloués par le ministère et par M. Le Drian et par M. Blanquer et M. Lemoine pour l'AEFE, 150 millions d'euros, si je ne me trompe pas.
Oui.
Est-ce que vous trouvez que ça, c'est suffisant? Est-ce que vous trouvez que ça, qu'il faudrait en faire plus? Et comment va le réseau français en Tunisie? Est-ce qu'il est menacé comme il peut l'être dans d'autres pays comme Madagascar, par exemple?
Mais donc, en fin de compte, ce qui s'est passé, les parents d'élèves qui ont été défendus beaucoup par les AEFE, mais par les APE, pardon, qu'est-ce que je raconte? Par les APE, elles ont été bien défendues et il y avait effectivement ce côté
les APE,
assez…
Les associations de parents d'élèves, je précise.
Oui, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude maintenant de dire les… acronyme. Alors donc, c'est vrai qu'elles ont été bien défendues à ce sujet. Ce que j'aurais souhaité, c'est avoir un petit peu plus de caractère, je dis bien, de la part des conseillers, parce qu'il y avait quand même quelque chose. Au lieu de demander aux Français de l'étranger de payer la facture du troisième trimestre, mais par échelonnement, il aurait fallu quand même demander légitimement quand même un petit peu plus de comptabilité transparente à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, à part les frais fixes, hein, et puis les frais pour les professeurs, bien entendu, qui ont fait leur boulot comme les autres, hein, vraiment avec beaucoup d'efforts, parce que c'était tout nouveau. Donc, comme c'est tout nouveau, il fallait absolument 8 heures, en 8 jours, enfin même moins de 8 jours, être très, très réactif. Donc, pour moi, ça a été très légitime de faire cette lettre que j'ai, plusieurs lettres, que j'ai envoyé auprès de tous les sénateurs et les députés des Français de l'étranger. Et il y avait une réponse très légitime aussi de la part de Madame Casbonne, qui m'avait écrit personnellement pour demander justement à ce que le RLM, tous les établissements des Français de l'étranger de la Tunisie puissent remonter les difficultés. Et moi, ce que je demandais, parce que c'est quand même une enveloppe qui est quand même assez sérieuse malgré tout, ce que je demandais, c'est que la réduction qui aurait été faite auprès des Français de l'étranger, que ce soit les étrangers aussi, hein, parce qu'ils payent quand même, ils participent à ces frais et à ce rayonnement de l'enseignement français dans le monde. Donc, aussi bien les Français, les clients, en fin de compte, entre guillemets, les parents d'élèves, Français et étrangers, de façon à ce que cette remise avec certaines choses, parce que par exemple, l'ASTEG, c'est l'EDF tunisien, il y a eu beaucoup moins de frais. Il n'y avait pas de facture puisqu'il n'y avait pas de présence humaine, à part le staff un peu. Donc, symboliquement parlant, ça aurait été très, très, très bien et très important. Et donc là, c'était vraiment quelque chose de très bien de remonter ces chiffres justement auprès de l'Assemblée nationale. Je pense que ça n'avait pas été fait et que j'ai demandé après à M. de Le Drian de demander à son chef de mission diplomatique de faire justement un effort par rapport à la demande légitime des parents. Actuellement, ils étaient aussi bloqués. C'est-à-dire, celui qui ne payait pas son troisième trimestre n'avait pas le droit de réinscrire son enfant. C'était un peu cette pression qui s'est maintenant avérée beaucoup plus douce, puisque maintenant, même ceux qui n'ont pas payé le troisième trimestre, je pense qu'ils en sont là actuellement, n'ont pas besoin d'avoir payé leur troisième trimestre pour pouvoir réinscrire leur enfant pour l'année suivante. Et ce qui était très important pour moi, Je suis par exemple responsable du bus des internes qui va de Sousse jusqu'à Gustave Flaubert et on avait 75 élèves l'année dernière. Nous, par exemple, on a remboursé sur 900 dinars, 280 dinars, c'est-à-dire la quote-part du troisième trimestre qui était très légitime et les parents d'élèves ont été fous de joie parce qu'on a très bien géré. Point barre, c'était tout. Donc pour moi, ce que je demandais, c'est que s'il y avait des parents qui avaient des séjours, qui avaient payé des frais pour justement les frais de 250 dinars pour l'inscription au bac, avec tous les papiers, les surveillants, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Donc, d'essayer de voir avec le parent, légitimement, au lieu de demander la troisième facture 100%, de faire avec eux le calcul. Voilà, comme nous avons fait pour le bus.
Et alors, vous avez cité la députée Cazebonne. Est-ce que vous êtes soutenue dans ce combat par le député de votre circonscription, Monsieur Elgarab ?
Monsieur ?
Elgarab, votre
député. Ah oui, Mjid. Alors, Mjid, c'est pareil. Mjid Elgarab, donc, a bien aussi défendu. Il défend, c'est-à-dire qu'après, il faut que nous… Vous savez, Monsieur Lestanguet, c'est ça, le problème de l'Assemblée nationale, c'est quoi ? Quand vous avez une majorité, vous pouvez avoir des personnes qui se plaignent derrière. Si vous avez la majorité qui vote contre, c'est malheureux. Voilà. Donc, il défend la cause. Madame Cazebonne a été… Elle est REM, hein, mais bon, tout ça. Mais elle a été compréhensive. C'est pour ça que j'ai apprécié son courrier personnel pour me demander à ce que le RLM remonte la comptabilité avec les problèmes qu'ils peuvent avoir, de façon à pouvoir défendre légitimement auprès de l'Assemblée nationale, bien sûr, avec des chiffres. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi sans chiffres. Donc oui, on est défendu et on est très défendu par les sénateurs des Français de l'étranger qui ont déjà, dès le mois de février, fait un amendement au sujet justement d'une aide. Et là, nous avions trois personnages comme Jackie Deromeni, Christophe Frassa et Ronan Le Gleut qui vraiment, comme on dit, ça me fait plaisir de voir des gens qui là bossent pour vraiment défendre à fond notre parole du bout du monde.
Tous ces gens, Monsieur Le Gleut, Madame Deromeni, Monsieur Elgarab que nous connaissons bien et Madame Cazebonne que j'ai eu la chance d'interviewer il y a encore 10 jours dans les Français.presse. Je fais un petit peu de publicité pour notre média en même temps. Si les parents ont eu des difficultés à payer le troisième trimestre, c'est parce que, évidemment, la COVID-19, la pandémie, le confinement, ça a été catastrophique. Comment ça s'est passé pour la communauté ici en Tunisie, notamment la Tunisie, c'est un pays évidemment où le tourisme a une part extrêmement importante et où ça a été totalement à l'arrêt. Comment ça s'est passé ? Il y a eu beaucoup de faillites, il y a eu beaucoup de gens qui rentrent en France parce qu'ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus de revenus.
Ça s'est passé dès le mois d'avril. Alors, parce que je fais partie aussi d'un groupe privé, un peu pour la sécurité des Français, donc un groupe privé où je suis adjointe. Et malheureusement, alors donc, j'avais l'UFE à m'occuper. Beaucoup de gens nous appelaient, bien entendu, parce qu'ils étaient paniqués, parfois n'avaient pas d'oreille, justement, pas d'écoute au téléphone. Les lignes étaient parfois bloquées. Et donc, en fin de compte, ils avaient besoin d'être soutenus. Seuls chez eux, la télévision, c'est bien rigolo, mais à un moment donné, on a besoin de parler à un humain. Et pour la petite histoire, vous voyez, cette affaire de bus dont nous sommes responsables, c'est-à-dire les trajets de bus toutes les semaines à venir chercher les enfants et les ramener chez leurs parents dans le coin de Sousse, puisque le lycée de la Marsa est à Tunis, à la Marsa. Donc, nous avons quand même près de 8 parents qui sont obligés de partir. Sur 75, je vous donne, ça vous fait une moyenne. 8 parents qui nous ont dit, à mon mari et à moi, voilà, on préférera être au chômage, enseignement gratuit en France, et être au chômage plutôt que là, nous n'avons plus la force de payer des sommes astronomiques pour l'internat, la restauration scolaire et les frais scolaires. Voilà, donc il y a eu quand même des soucis aussi pour les usines. J'ai eu des témoignages d'usines, de monastères dans le textile et dans le textile surtout, où on me disait, bah voilà, j'ai dépensé, je vais prendre mes 25 000 euros d'économie pour payer le personnel, les charges pour le mois d'avril. Je ne pourrai pas tenir le mois de mai. Donc, je pars. Voilà, ça c'est un témoignage. Donc par contre, je n'ai pas de la part de la Chambre du commerce à Tunis, la Chambre du commerce française, les chiffres exacts, ce qui serait très intéressant. C'est voilà, parce que sur ces près de 1400 entreprises françaises, où est-ce qu'on en est, quoi? Où est-ce qu'on en est exactement?
Oui, très difficile avec les chambres d'avoir les chiffres, je dois vous le dire, pas que en Tunisie. Et alors, M. Elguiram m'avait parlé, c'était il y a quelques semaines, et il était intervenu à l'Assemblée nationale sur ce sujet d'ailleurs, des difficultés de rapatriement justement. Il y avait des avions spéciaux qui étaient mobilisés. Alors, il m'avait parlé de la situation au Maroc, mais qui avait bloqué son espace aérien et qui n'autorisait que quelques vols Air France spéciaux affrétés, etc. Est-ce que ça a été la situation aussi en Tunisie? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a encore des problèmes? Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent rentrer en France et qui sont bloqués en Tunisie? Ou à l'inverse, des gens qui sont en France, qui veulent rentrer en Tunisie et qui ne peuvent pas? Ou est-ce que ça s'est réglé, ça, entre-temps?
Alors, ça commence à se régler petit à petit, mais effectivement, il y a eu un vent de panique entre le mois de mars, entre le 13 mars, quand on a été chercher les enfants à la Marsa, ça a été le 13 mars, puisque le 12 au soir, M. Poivre d'Arvor déclarait à 21h30 que les écoles françaises étaient fermées. Donc, j'ai dit, hors de question d'aller chercher les enfants la nuit, c'est pas la peine, c'est le lendemain matin. Donc, à partir du 13 mars…
Juste pour préciser, M. Poivre d'Arvor, c'est pas Patrick, c'est son frère, on est bien d'accord, hein?
Oui. C'est le frère.
Oui. C'est le frère. Et donc, vous pouvez me rappeler sa fonction parce que je sais qu'il est actif.
Alors, donc, c'est l'ambassadeur de France.
L'ambassadeur de France en Tunisie.
Voilà. Chef de mission diplomatique.
Olivier Poivre d'Arvor.
Voilà, exactement. Et donc, c'est vrai qu'ensuite est arrivé un certain vent de panique, c'est-à-dire que les personnes, à un moment donné, avaient pris très peur parce qu'elles ne savaient pas s'ils allaient être atteints de la maladie, puisque ça arrivait à tout le monde, il fallait absolument se protéger. Qu'est-ce qui se passe? Je suis loin de ma famille en France. Oh là, au secours, je veux rentrer, mourir près de mes enfants, mais je dis vous ne… Et, pour moi, mon premier témoignage, c'est que c'est vrai qu'il y a eu ce vent de panique. Alors, vous allez avoir diverses versions. Moi, qui n'ai pas la langue de bois, je vous dirai tout simplement que beaucoup de monde ont essayé d'appeler énormément, se sont retrouvés avec beaucoup d'attentes au téléphone ou impossible d'avoir l'ambassade de France au téléphone. Là, quand c'est impossible d'avoir l'ambassade de France au téléphone, bien entendu, les gens prennent très peur, bien sûr. Donc, j'ai offert à Monsieur l'ambassadeur de France mon aide le 19 mars. Dès le 19 mars, nous étions proposer avec un script, hein, bien sûr, qu'on nous aurait donné pour essayer d'aider. Bon, d'accord. Nous avons aidé de notre côté parce que l'UFE est très professionnel là-dessus. Depuis 1936, reconnu d'utilité publique, nous sommes des pros sur aider les Français de l'étranger, pas que pour leur faire un repas, mais aider et faire la fête avec eux, et les aider quand ça ne va pas. J'ai beaucoup conseillé les personnes de plus de 65 ans qui voulaient absolument, en vent de panique, revenir en France, dire voilà, nous sommes heureux ici. On est au soleil. Lorsque vous arriverez en France, c'est absolument interdit d'approcher vos enfants. Mais je reconnais… alors donc, au bout d'une demi-heure, ils nous écoutaient, mais c'était force de dialogue, bien entendu. Et ça, avec des milliers d'appels, vous ne pouvez pas faire un dialogue comme ça, d'approche, de soutien, et puis de présence humaine. De présence humaine où on sait que quelqu'un n'est pas loin de vous. Il y a eu des soucis pareils, des blocages pour reprendre des avions, des inscriptions où les gens étaient inscrits sur une adresse mail, mais ils n'avaient pas de retour par mail. Après, c'était pas facile.
D'accord. Et alors, la reprise, comment ça se passe du coup? Est-ce que aujourd'hui le ciel est ouvert? Est-ce que les gens vont pouvoir aller en Tunisie? Et est-ce que le tourisme va reprendre en Tunisie?
Alors, le ciel est ouvert. Donc, en tout cas, les frontières s'ouvrent à partir du 27 juin, comme a prévu le gouvernement tunisien. Nous avons, personnellement, on retourne voir notre fille en France en juillet. Donc, j'ai l'impression que c'est bien ouvert. Ce qui se passe, c'est que pour le retour en Tunisie, ça y est, maintenant, l'espace aérien s'ouvre de plus en plus. Donc, les personnes vont pouvoir rentrer. Il n'y a qu'un problème, je pense, ça doit être pour la Belgique. D'après ce que j'ai compris, là, depuis hier, nous avions un tableau où la Belgique n'était pas notée. Mais nous sommes dans la case orange pour la France. Donc, nous devons...
Ah, je ne vous entends plus.
Quand nous rentrons, faire notre test PCR, 12 heures, et puis ensuite... faire 7 jours, être chez nous, 7 jours confinés, ça y a pas de 14 jours, pardon, mais au bout du 7e jour, on demande à notre médecin de pouvoir faire un test PCR. S'il est négatif, on peut sortir. Et alors, bien voilà. Donc ça, nous, on s'engage, bien sûr, à bien suivre. La Tunisie est assez… Alors, elle veut que les frontières s'ouvrent parce qu'elle a besoin de ce tourisme. Et en même temps, quand on entend le peuple tunisien, c'est vrai qu'il dit « attention, attention, c'est vrai quand même, nous on a eu 49 morts hein, quand même, la France, c'est pas facile non plus hein, au nombre de morts ». Donc, regarde les touristes venir avec une certaine réserve, ce qui est tout à fait légitime, mais je pense que le gouvernement fait bien son boulot à bien cadrer. Il a fait un cadrage super hein, là-dessus. Hein. Voilà, alors, donc pour nous, ça réouvre, les hôtels réouvrent sans problème, tout réouvre, mais avec beaucoup de réserves, beaucoup de soins pris à ce sujet-là.
D'accord, et alors, avant de venir à une question concernant les consulaires, j'avais encore une ou deux petites questions avant. Comment se passe la situation politique et sécuritaire en Tunisie? Parce qu'il y a eu à la fois... La Tunisie a été vue comme le phare du monde arabe au moment du printemps arabe et je pense que c'est le seul pays qui a fait des élections démocratiques, mais ensuite il y a eu des problèmes sécuritaires. Où ça en est maintenant et comment les Français de Tunisie le vivent? Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou est-ce que ça va mieux?
Alors, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Nous étions là hein, en direct en 2015, hein, parce que 2015, c'était quand même Sousse. Hein, donc, on s'en souvient comme si c'était hier, vous savez. Et justement, parce qu'on était responsable aussi d'un transport de Français, hein, quand même, hein, de petits lycéens français, de nos enfants. Imaginez un petit peu les angoisses qu'il pouvait y avoir. Mon mari et moi, on les accompagnait, puisqu'il y avait le couvre-feu. Donc, tout cela, je peux vous garantir que, par contre, il y a une certaine police qui fait un boulot extraordinaire. Sans véritable moyen, je dirais, il y a énormément de volonté humaine. Ces gens sont très proches de leur pays, donc quand ils ont un certain patriotisme qui fait qu'ils peuvent faire des heures supplémentaires, ça ne les gêne pas. Voilà, c'est ce que je vois moi sur le terrain, hein, honnêtement parlant. Donc en fin de compte, cette sécurité, lorsque par exemple, vous voyez, il y a quelque chose, l'année dernière, il s'est passé quelque chose, il y a eu des petits affrontements, c'était au mois de février en 2019, toujours sur le coin de Sousse, parce qu'on est quand même assez. On est quand même dans un joli petit coin. Malgré tout, on fait attention. Attention, quoique c'est très sécurisé. Mais c'est en plein mois de février, et vous aviez justement la police qui nous disait raccompagnez les enfants de jour, plus que de nuit, parce que nous, comme ça, on est plus tranquille. Nous avons obtempéré tout de suite. Le proviseur de l'établissement n'a pas cherché à comprendre, il nous a tout de suite entendu et écouté. Et voilà comment ça se passe. C'est comme ça qu'on a fait un transport en toute sécurité. Voilà comment les Français de l'étranger, pour nous ici, Sousse, Monastir, Média, dans le coin du Sahel, on est très sécurisés. Et puis en plus, tout le monde, en règle générale, vous regarderez sur ma page Facebook, c'est pour la raison pour laquelle j'avais écrit ce fameux message quand même à toute la Tunisie. Parce que On dit tout ce qui ne va pas, mais quand il y a quelque chose qui va, on laisse passer son chemin. Et là, j'ai dit, ce n'est pas possible. Avec tout ce dysfonctionnement que nous avons pu vivre en Tunisie, en France, pardon, tous ces dysfonctionnements graves que nous avons pu vivre en France, et voir un pays sans moyens, avec des masques, avec, avec une infrastructure, c'est-à-dire que c'était, c'est pour ça que j'ai mis la phrase sur mon courrier auprès du président de la République, c'était prévenir plutôt que guérir. Et c'est vrai qu'on avait les sirènes qui hurlaient tous les midis, vers 11h30 midi, de toutes ces voitures de police. Il y avait l'armée qui était sur les routes pour demander aux gens, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Ça faisait peur. Je les ai appelés, moi, un peu Starsky Hutch pour rire un petit peu. Ils étaient, ça les faisait rire. Et, mais tout ça, bon enfant, enfin, on s'énerve, bien sûr, si vous écoutez pas, ce qui est tout à fait logique, et ça nous a protégés. La preuve. Donc, prévenir plutôt que guérir.
La preuve, 49 morts. Alors, c'est 49 de trop, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'en France. Je voudrais parler un peu des élections consulaires.
Alors, oui.
Comme vous le savez, elles étaient prévues les 16 et 17 mai de cette année et elles sont décalées à l'année prochaine. Sauf erreur de ma part, vous êtes candidate vous-même aux élections consulaires.
Oui, tout à fait.
Donc, j'avais deux questions, enfin, peut-être plus, on va voir. La première, est-ce que vous êtes d'accord avec le calendrier qui est mis en place ? Parce que certains voulaient que ce soit plutôt en octobre ou en novembre. Est-ce que, et du coup, les conseillers consulaires sortants sont prolongés pendant cette période. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et puis, deuxièmement, parlons de votre candidature. Pourquoi êtes-vous candidate ? Quel est votre programme ? Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Ben, disons que je dirais juste que je me présente conseillère consulaire parce que là, si je présente un programme, c'est que je rentre dans une certaine propagande, ce qui ne doit pas se faire, bien entendu. Et je pense, alors moi je pense que ce sera repoussé en mai 2021 pour plein de sécurité par rapport aux dates, par rapport aux habitudes, tout cela. Donc, les listes devront être redéposées, bien entendu. Ce que nous avons, ben, c'est que nous sommes une liste complètement apolitique, déjà. Ça c'est pour nous, c'est très important. Nous sommes apolitiques. Alors, bien sûr, là, ça n'a plus rien à voir avec je suis présidente UFE, bien entendu, mais là, la position de l'UFE n'a rien à voir. Alors nous, c'est écouter et agir unis pour les Français de Tunisie, Libye, hein, c'est cela. Alors c'est un ensemble d'hommes et de femmes, bon voilà, qui géreront, je dirais, ma première des politiques, c'est la politisme, et surtout, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je dis, je le fais, ce que je fais, je le dis. Et vraiment, la défense des Français de l'étranger, non pas que le conseil ou obtempérer. Pour moi, c'est très important.
Et alors, une ou deux priorités peut-être que vous voulez mettre en avant sur votre liste, enfin, avec votre liste plutôt.
La francophonie, qui est déjà ma première volonté par rapport à l'UFE, puisque je suis présidente aussi du Festival international de la bande dessinée en Tunisie. Donc, et on veut que ça se passe à Sousse, comme moi qui suis d'origine originaire d'Angoulême, et je suis aussi ambassadrice d'Angoulême par notre maire Xavier Bonnefond, élu du premier coup. Donc, c'est vrai que comme Angoulême est devenue la capitale mondiale de l'UNESCO, c'est vrai que je voulais que Sousse devienne la capitale de la Tunisie. Enfin bon, on œuvre pour ça avec le maire, le gouvernorat de Sousse, etc., pour descendre un peu la culture et suivant la volonté du gouvernement tunisien. Alors, je reviens justement. Donc, la francophonie. Pour cette jeunesse tunisienne qui a de plus en plus de mal aussi, de difficultés, parce que la langue française est difficile à apprendre, de l'aider, mais avec plein d'amitié puis de convivialité, je trouve que ça, c'est ce qu'il faut. Donc, la francophonie en Tunisie, et puis en même temps, surtout défendre les intérêts des Français de l'étranger. Je dis bien défendre, exactement comme ce que je viens de faire avec cette lettre que j'avais adressée à M. Le Drian, qui aurait dû être faite par d'autres personnes, bien sûr, pour défendre les intérêts et le bon sens des Français de l'étranger, non pas obtempérer. Sinon, on a besoin de personnes.
Je suis bien d'accord que nous autres Français de l'étranger, on est plein de bon sens. Merci beaucoup. J'avais une dernière question. Le 14 juillet en Tunisie, il est maintenu, il est annulé, il est en cercle restreint, parce que ça varie beaucoup selon les pays.
Alors, personnellement, je ne suis pas peut-être dans les petits papiers de confidence, hein, mais personnellement, je ne suis au courant de rien. Tous les ans, je me bats pour qu'il y ait un seul horaire au lieu de 18h30 et 20h30, que la nation entière se retrouve à un seul horaire. Mais là, pour le 14 juillet, est-ce que ce sera sur invitation personnelle entre vase clos, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Dès que je sais quelque chose, en tout cas, je préviens nos membres du Sahel pour qu'eux aussi aient le droit de faire la fête à Tunis, non pas que ceux autour de Tunis.
Bon, et vous me prévenez aussi en même temps. Merci beaucoup.
Ça marche.
Merci beaucoup, Roselyne Cordin. Je rappelle que vous êtes
merci, François.
Présidente de l'UFE SUS et que vous êtes par ailleurs candidate aux élections consulaires qui se dérouleront donc, confinement oblige, l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame Cordin.
Merci, merci François, à très bientôt. Au revoir les Français.presse, au revoir.
Au revoir.